Bonjour à toutes et à tous, les infos départementales vous sont présentées par votre serviteur Christophe Jubien, menu de l'actualité de ce mardi. 5 novembre, les salariés de la sucrerie de Toury ont décidé de lever le blocage de leur usine qu'ils avaient entamé il y a 15 jours. Les expéditions de sucre, d'alcool et de pulpe ont repris hier. Les salariés peuvent être fiers, a souligné le délégué CGT de la sucrerie. Ils venaient bloquer l'entrée du site après leur journée de travail et le rapport de force engagé avec la direction a entraîné beaucoup de fatigue et demander des sacrifices, mais, ajoute Frédéric Rebiffet, la mobilisation a porté ses fruits. De fait, les négociations du plan social ont repris. Une réunion a été organisée le 30 octobre dernier à Paris. Le climat était tendu, explique le syndicaliste. On a ressenti le mépris de la direction et des salariés ont été menacés. Mais la direction a bien compris qu'on était prête à aller jusqu'au bout et à arrêter l'usine. Ils avaient, tout comme nous, tout à perdre. Concrètement, les employés de la sucrerie de Toury ont davantage obtenu en 5 heures de réunion qu'en un mois de négociation. Le nombre de reclassements en interne est passé de 79 à 115. Par ailleurs, des avancées ont été obtenues sur le congé reclassement et sur les départs en retraite anticipés dont la direction ne voulait pas entendre parler il y a encore une semaine. Désormais, c'est acté, des salariés qui étaient à 36 mois de la retraite pourront en jouir dans les prochains mois. Les négociations vont se poursuivre jusqu'à la fin de novembre, certains points étant encore en discussion. Les ours Bonnie et Glacha resteront propriétés de leur éleveur, un montreur d'ours du Loir-et-Cher. Les responsables du zoo refuge La Tanière à Nogent-le-Fay étaient inquiets de leurs conditions de vie. Ils avaient écrit au préfet du Loir-et-Cher pour solliciter une mesure conservatoire qui leur aurait permis de recueillir les deux plantigrades. Puis interpellés par Loïc Dombreval, député des Alpes-Maritimes et président du groupe d'études sur la condition animale à l'Assemblée nationale, eh bien, le préfet a fait connaître rapidement sa position. Je cite, l'établissement où se trouvent Bonnie et Glacha est suivi très régulièrement par des inspecteurs assermentés. Trois contrôles réalisés depuis le début de l'année concluent à l'absence de maltraitance. L'état de santé des animaux est satisfaisant, conclut le préfet. Pas sûr que cette réponse satisfasse le gérant de La Tanière. Patrick Viola n'a pas oublié dans quel état il a récupéré Micha, l'ours qu'elle avait réussi à soustraire au montreur d'ours du Loir-et-Cher en septembre dernier. Très amaigri, Micha souffrait d'une pathologie pulmonaire et tant ses pattes que son museau étaient couverts de plaies infectées d'où sortaient des asticots. Heureusement, rassurez-vous, les soins qui lui ont été prodigués depuis lors à Nogent-le-Fay lui ont permis de se remplumer. Micha a repris 40 kilos et son état est en constante amélioration. Mercredi 6 et jeudi 7 novembre, Chartres Expo abritera le rendez-vous annuel de la réglementation cosmétique. C'est le fameux congrès parfums et cosmétiques de Chartres à l'initiative de la Cosmétique Vallée. Plus de 500 professionnels de l'industrie et de la beauté sont attendus pour cette 17e édition du congrès en jeu réglementaire. C'est un rendez-vous et un lieu d'échange unique en son genre entre industriels et autorités de référence pour toutes les questions relatives aux affaires réglementaires du secteur de la parfumerie cosmétique. Un congrès dont les présentations très pédagogiques faites par les meilleurs experts attirent un nombre toujours grandissant de participants français et étrangers. L'artiste plasticien Jean-Paul Albinet est actuellement exposé en trois lieux à Chartres, exposition de vitraux à la Galerie du Vitrail, de peinture au prieuré Saint-Vincent et un vitrail installé dans la façade du nouveau bâtiment voyageur de la gare, une œuvre permanente donc qui scelle un partenariat déjà ancien entre Jean-Paul Albinet et les ateliers Loire, comme nous l'expliquent Bruno Loire et Jean-Paul Albinet.
Oui, ça fait plus de 30 ans que nous travaillons ensemble, et avec pour avoir fait des vitraux, des peintures murales. Et là, donc, effectivement, double exposition et puis la présentation Constellation des voyageurs.
Vous avez dit tout à l'heure que c'est Jean-Paul Albinet était un des premiers artistes auxquels vous êtes intéressé en découvrant l'art contemporain. Qu'est-ce qui vous a séduit particulièrement chez lui?
C'était son graphisme noir des personnages que j'ai vu chez une collectionneuse, et j'ai flashé devant ce travail-là. Et j'ai une œuvre d'ailleurs dans notre chambre qui est dans cet esprit-là. Et donc j'ai contacté Jean-Paul et son travail qui fait penser au vitrail a donné des petits.
Jean-Paul Albinet, vous avez dit d'ailleurs tout à l'heure que ce que vous exposez là, c'est votre période vitrail.
Oui, exactement. C'est la période qui est dans le double titre mise en scène des années 90, où c'est un petit peu avant les années 90, donc les premières pièces c'est 86, 7, 8, et un peu après, 11, 12.
Sur différents supports, là on est au premier étage, ce sont des sérigraphies. Vous pouvez nous parler de ce travail?
Oui, parce que pour que les codes soient lisibles par lecture optique, il faut qu'ils soient imprimés d'une manière ou d'une autre, et moi j'ai utilisé la sérigraphie. Ce qui était une période, un peu une anecdote, c'est que dans les années 90, j'avais eu accès à un matériel de lecture optique, un scanner, et disons 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, tout mon travail peut être décodé avec un smartphone, avec une application. Voilà. Donc ce qui est toute la période précédente est en quelque sorte validée par les technologies que tout le monde utilise maintenant, le smartphone.
Alors ce code barre qui est votre signature, vous êtes le premier à l'avoir utilisé, avoir même votre nom est un code barre. Pourquoi subitement vous a-t-il frappé comme ça?
Parce que en fait dans les années 87-8, quand il commence à apparaître ponctuellement dans certains points en France, par curiosité, je ne sais pas comment le qualifier, c'est un signe qui m'apparaît tout à fait intriguant, qui est très étonnant. Et qu'on puisse le lire, c'était magique à ce moment-là. Hein, donc il n'y avait pas encore tous ces appareils technologiques qui permettaient d'aller très très vite. Donc c'était un langage. Et finalement, le langage du plasticien, je me suis intéressé au langage technologique tout simplement. D'ailleurs, moi j'ai par la suite forgé cette phrase en quelque sorte en parlant de plasticité du langage. Et évidemment, c'est un langage technologique qui a une certaine plasticité. Et donc il me permettait de faire passer des messages. Autre parenthèse par rapport à l'histoire d'il y a 20-30 ans bientôt, est-ce que c'est pas déjà les premiers tweets? Est-ce que j'ai pas eu déjà l'idée de penser aux tweets? Ces fameux signes qu'on peut mettre comme ça, diffuser, parce que les messages qu'on peut voir sur les peintures, c'est très court, c'est un message, le rêve, le bonheur, des choses très courtes comme ça, qui sont couramment utilisées maintenant. Mais il y a 25-30 ans, c'était peut-être un peu novateur.
Vous intitulez vos œuvres dans les rêves, c'est ironique? C'est le rêve revisité par la culture pub?
Oui, c'est un peu tout ça. Je crois que dans une œuvre artistique, il y a toujours une charge symbolique et puis une charge humoristique également, pourquoi pas, et puis une charge de visuelle, je veux dire. Donc j'ai essayé de travailler avec tout ça, c'est-à-dire l'aspect technique, l'aspect plastique et l'aspect couleur et message. Donc c'était un bloc. Finalement, si on regarde dans l'histoire de l'art, on s'aperçoit que tous les artistes ont cherché à communiquer par les moyens qui étaient les leurs au moment où ils exécutaient les œuvres.
Les œuvres de Jean-Paul Albinet, dont ces fameux codes barres, sont donc visibles à la Galerie du Vitrail pour les vitraux et pour les peintures au prieuré Saint-Vincent, rue Porte-Sandreuse à Chartres. Culture toujours, un documentaire d'Alex Ferrini, En liberté, le village démocratique de Pourgues, sera diffusé mercredi, donc demain soir à 20h30 au cinéma Les Enfants du Paradis. Il est proposé par l'association cinéphilique chartraine Cinéclap. Le village de Pourgues est un laboratoire qui prouve, je cite, comment nous pouvons cultiver le futur en retrouvant notre place sur Terre et notre humanité, agriculture, éducation, économie, gouvernance, consommation, santé, dans chacune de ses activités essentielles pour sa survie, l'être humain se doit de se transformer pour transformer ville et campagne en oasis. C'est surtout l'objectif que se sont fixés les gens du village de Pourgues. Vous en saurez davantage en allant voir donc ce documentaire d'Alex Ferrini. Je rappelle la date, mercredi 6 novembre à 20h30, et le lieu au cinéma Les Enfants du Paradis à Chartres. Voilà, ce journal est terminé. Prochain rendez-vous de l'actu départementale, eh bien, ce sera demain soir à partir de 18h15. D'ici là, passez une excellente fin de soirée à notre écoute, évidemment.
La peur ou la bonté.